Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien, Marianne Paquette, pour vous accompagner au cours de ces 30 prochaines minutes à travers cette émission de C'est bon sur la santé sur Canal M. Je vous présente tout de suite mes invités. Voilà, j'ai envie de faire ça. Je fais jamais ça d'habitude, mais on change la formule un petit peu. Cynthia Brosseau, vous êtes travailleuse sociale, psychothérapeute à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Et Véronique Dupont, maman de deux petits garçons qui vivent avec l'autisme. Oui, vous êtes là parce que au début du mois de novembre, l'hôpital Rivière-des-Prairies lançait une vidéo qui traite du vécu des parents d'enfants autistes. Et vraiment, on suit vraiment leur parcours, de l'annonce du diagnostic jusqu'à l'acceptation des défis que peuvent amener un enfant différent. Et c'est à travers des témoignages issus de quatre familles qui sont bien différentes, aussi des experts en santé. On va parler de cette vidéo-là. On va parler également de tout ce processus d'adaptation-là dans quelques instants. C'est bon sur la santé, Jean-Sébastien Laliberté qui me mentionnait que j'ai rebaptisé mon émission « C'est bon pour la santé ». Bien sûr, vous ne vous êtes pas trompé. Véronique, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Cynthia.
Bonjour.
Merci d'être là. Cette vidéo, je vous la présente sur le chemin de l'autisme. C'est fait par l'hôpital Rivière-des-Prairies. On nous présente quatre familles bien différentes. La famille Laporte, qui est une famille, quatre enfants, des parents ensemble, des parents un petit peu plus âgés également, une famille, là, comme je le disais, des enfants âgés entre 20 ans et plus. La famille Gargès, également une famille immigrante. La famille Genet, une famille où les parents sont ensemble encore, une famille nombreuse où il y a deux enfants qui vivent avec l'autisme. Et la famille Dupont, c'est la vôtre, Véronique. Oui. Vous avez deux petits garçons, Maxime et Nicolas,
c'est ça?
Qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Ma première question est pour Cynthia. Est-ce que c'était important d'aller chercher des familles qui ont des réalités si différentes, des contextes aussi également distincts?
Effectivement, c'était important pour nous d'aller dans ce sens-là, étant donné que, bien que le diagnostic du trouble de spectre de l'autisme se base sur des caractéristiques, des symptômes très précis, malgré tout, chaque enfant est très différent. Chaque enfant autiste est très différent et aussi chaque réalité familiale est différente. Donc, pour nous, c'était important d'aller chercher des familles qui avaient des similitudes, mais en même temps qui étaient très différentes pour permettre à tous les parents de qui ont un enfant avec ses particularités, de pouvoir se reconnaître.
Mm-hmm. Donc, de montrer qu'il y a des processus également qui peuvent être semblables, mais également très, très différents. Véronique, quand on vous a approché pour participer à cette vidéo-là, ça a été quoi votre réaction? Est-ce que vous avez eu envie d'entrer du jeu, de le faire, de témoigner de votre réalité?
Ah oui, certainement. Moi, ça... Bien, ça m'a flatté, premièrement, de me faire choisir comme ça, mais aussi, c'était très important pour... montrer aux autres parents que finalement, bon, qu'est-ce qui les attend un petit peu. Puis aussi, la population en général, pour montrer un peu c'est quoi l'autisme. Parce que partout, il y a des petits-enfants autistes, des adultes aussi. Puis de voir un peu c'était quoi, c'est important pour moi de participer à ça pour...
Oui, ça revient beaucoup, d'ailleurs, avec... Il y a un monsieur qui m'a beaucoup touchée dans cette vidéo-là, le papa de la famille Genet. Parce que c'est rare qu'on voit des hommes s'exprimer, parler de leurs émotions, mais avec grande maturité. Et il revient là-dessus, à un moment donné, dans la vidéo, sur le besoin d'aider, de dire aux parents, regardez, vous allez passer à travers ça, mais on peut le faire et on y arrive bien. Et il y a des gains, il y a de belles réussites aussi à travers cette vie familiale-là. Et ça me ramène, Véronique, à un moment donné aussi, il y a la question du jugement. Le jugement des autres qui est abordé dans la vidéo où à peu près toutes les familles, et ça c'est assez commun, le vivent à travers soit les proches ou à travers, vous le dites à un moment donné au biodôme, je suis sortie en pleurant, tout le monde nous regardait, il y avait une crise, que des crises.
Oui.
C'est également un petit peu peut-être pour outiller ou sensibiliser les gens?
C'est exactement ça, c'est pour sensibiliser les gens parce que bon, mais on ne peut pas se cacher chez nous quand on a des enfants autistes. Donc, pour que les gens soient conscients un peu à quoi ça ressemble, puis comme ça, la prochaine fois qu'ils voient peut-être un enfant en crise ou une femme, ils vont reconnaître et peut-être porter moins de jugement parce que c'est pas très agréable. Mm-hmm. Puis, oui, c'est ça.
Cynthia, on voit à travers la vidéo, et c'est bien illustré à travers les saisons, hiver, printemps, été, les étapes, le processus d'adaptation. Est-il semblable sensiblement chez tous les parents, toutes les familles?
C'est sûr que chaque parent ne part pas de la même place. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui, avant d'avoir le diagnostic formel, ont eu des soupçons très longtemps d'avance. Et ils ont cherché sur Internet, ils se sont questionnés, donc ils avaient déjà des suspicions depuis un certain temps, alors que pour d'autres parents, c'était moins le cas. Alors, c'est sûr qu'ils partent pas de la même place. Oui. Donc, quand le diagnostic arrive, final tombe, et aussi le processus d'évaluation est quand même un processus assez complexe et qui demande un certain temps et une expertise d'équipe. Donc, quand le diagnostic tombe, les parents sont pas nécessairement à la même place, mais effectivement, on voit une tendance qu'on illustre dans le vidéo de vivre certaines étapes, certaines émotions similaires pour les parents, mais chacun étant unique. C'est un peu ce qu'on voulait démontrer dans le vidéo. Oui, il y a des similitudes, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a des étapes qui sont similaires, mais en même temps, c'est pas un processus qui est linéaire, que chaque parent vit avec de façon séquentielle. Donc, chaque parent est unique dans ses réactions, dans son vécu. Alors, c'était le défi de la vidéo.
Et ça me ramène ce que vous dites à la justesse des familles choisies, parce que pour certaines familles, c'est le deuxième enfant. Il y a deux enfants qui vivent avec le TSA. Donc, évidemment, le choc n'a pas été le même pour le premier que pour le deuxième. Parfois, c'est le dernier enfant d'une grande famille. Dans votre cas, c'est deux enfants, Véronique, deux garçons. Mais parlons-en quand même de ces étapes-là qui sont très, très bien décrites dans la vidéo. Il y a le choc du diagnostic en premier lieu.
Exactement.
Les parents le décrivent, comme vous le dites, selon leur contexte. Après, qu'est-ce qu'on peut vivre?
Par la suite, le parent peut vivre une étape qu'on appelle plus le refus ou le déni. Donc, c'est comme si psychologiquement, c'est difficile pour eux. Donc, ils peuvent avoir tendance à remettre le diagnostic en question, à douter. Mm-hmm. À ce moment-là, c'est cette étape qu'ils peuvent vivre. Certains parents ne la vivent pas nécessairement, par contre. Par la suite, le parent peut vivre une période plus qu'on nomme de désespoir. À ce moment-là, la réalité le rattrape vraiment. Il voit au quotidien que le diagnostic est bien là, les difficultés sont vraiment présentes. Donc, à ce moment-là, le parent peut avoir tendance à se retirer un petit peu, à s'isoler ou à se remettre beaucoup en question. Certains parents
À culpabiliser.
Oui, hein. Ou même d'une crise existentielle dans certains cas pour certains parents. Donc, avoir des émotions plus difficiles. Mais graduellement, ils arrivent à une étape plus de détachement. Donc, on parle d'un détachement, de ne pas être toujours émotionnellement pris dans des aussi intenses qu'au début. Alors, on voit ce détachement-là et donc plus une réouverture vers les autres, vers leur projet de vie, vers l'extérieur, pour finalement en arriver à la dernière étape qui est plus l'adaptation comme telle. Mm-hmm. On peut dire aussi le terme acceptation, mais pour certains parents, ce terme-là est plus difficile à accepter parce qu'ils disent non, l'acceptation, c'est pas un terme. Donc, on parle vraiment de l'adaptation à ce moment-là. Alors, ils conçoivent la réalité, ils acceptent la réalité, mais avec ses forces et ses difficultés, et ils arrivent aussi à réinvestir d'autres projets, plutôt que de simplement focusser sur l'autisme ou sur leur enfant autiste. Donc, ils arrivent à réintégrer tout ça dans leur vie plus générale.
Véronique, à un moment donné, dans la vidéo, vous décrivez bien l'une des étapes que peut-être Cynthia pourrait illustrer, je ne sais pas également tout à fait c'est laquelle, là, où vous dites « j'étais juste dans ma tête ».
Oui.
Je parlais plus, je m'isolais, je ne pensais qu'à l'autisme sans cesse. Je me réveillais la nuit, je pensais à l'autisme. C'était quelle période, ça?
C'est plus au niveau du désespoir, cette étape-là.
Et qu'est-ce qui amène à sortir de là? Je m'intéresse un petit peu aux transitions des étapes. Ça s'est passé comment pour vous?
Bien, c'est vraiment comme un détachement. L'habitude, finalement, mm-hmm. puis les outils qu'on peut nous fournir pour avoir des trucs pour que ça soit moins intense ou quoi. Et l'acceptation, absolument, c'est mm-hmm. Le temps, je vous dirais, finalement. Là, c'est le temps qui nous permet de se remettre.
Et également les ressources. Vous parlez de l'hôpital de jour, par exemple. Oui. Tout ça, dans la vie de vos fils, ça a changé également l'interaction familiale?
Ça a absolument tout changé, l'hôpital de jour, même l'école, je vous dirais. Ça les a beaucoup aidés à se surpasser, à se développer, à s'intégrer même. Ça a été des ressources indispensables, certainement, oui.
Véronique, dans les quatre familles, vous êtes la seule monoparentale. Donc, oui. vous élevez seule vos deux fils. Et à un moment donné, vous dites, il y a des forces, des avantages, il y a des inconvénients, mais vous n'allez pas plus loin là-dessus. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est quoi les forces? C'est quoi les désavantages?
Bien, la force, c'est qu'on voit vraiment qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Des fois, on est un petit peu découragé, peut-être, ou surtout inquiet quand on reçoit le diagnostic. Donc, si on est seul, on voit vraiment la force qu'on a en nous. On est capable de s'en sortir. On est capable de continuer à fonctionner. C'est sûr que lorsqu'on est deux, peut-être qu'on peut se relayer. Pardon. Donc, peut-être que ça peut être moins épuisant. On peut se consulter. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai bien intervenu pour cette situation-là? Donc, on peut se consulter et se donner mm-hmm. des petits trucs, se soutenir. Mais quand on est seul, bien, on ne peut pas faire ça. Mais on réalise à quel point on a de la force vraiment en nous. Puis c'est très important.
Oui. Vous parlez de la force et de l'écoute oui. également, qui est assez importante. Ça ressort aussi également à travers le commentaire de certains spécialistes. Vous participez, Cynthia, vous-même, en tant que spécialiste de l'hôpital Rivière-des-Prairies, également le docteur Motron. Et il parle de cette attitude-là, une attitude à avoir avec un enfant. En fait, il lance plein de commentaires ou de recommandations. Quelles seraient des attitudes peut-être qui favorisent le contact avec un enfant autiste quand on est parent?
Bien, pour le parent, bien sûr, d'être de plus en plus confortable avec la problématique, donc d'aller chercher de l'information, et ça, tous les parents le font habituellement, sont très informés. C'est important, effectivement, pour eux de bien connaître la problématique de leur enfant. Mais nous, ce qu'on a essayé de démontrer dans la vidéo, c'est que, oui, au-delà de bien connaître l'autisme, de bien connaître la problématique, ce qui est important, c'est que le parent puisse faire développer la relation d'attachement avec son enfant. Et ça fait toute la différence. Parce que un enfant, oui, a besoin de autiste a besoin de thérapie spécialisée, a besoin de techniques spécialisées, mais il a, dans un premier temps, besoin de créer un lien d'attachement avec son parent, avec ses parents, de la même façon que les autres enfants. Donc, c'est cet équilibre-là. Et c'est aussi la force, je pense, de notre hôpital dans les services qu'on offre, d'inclure les parents dans les traitements. Donc, pas seulement de leur enseigner des techniques ou des choses qui sont importantes à savoir en autisme, mais aussi de les inclure pour qu'ils développent une relation satisfaisante mm-hmm. pour leur enfant. Donc, c'est bon pour l'enfant parce qu'il a besoin de cette sécurité-là familiale, mais c'est aussi bon pour le parent parce que plus le parent va se sentir outillé, plus il va avoir une gratification parentale, donc un désir, va être content d'être parent et ça, ouais. c'est un facteur de protection contre la dépression, l'anxiété. Alors, c'est beaucoup ce sentiment de gratification là, parentale que nous, on cherche à développer en les impliquant ouais. dans les thérapies puis avec leur enfant.
On l'entend... Là, c'est la maman de la famille Genet qui dit ça à un moment donné. Je pense que je pourrais pas passer à travers s'il y avait pas parfois un « je t'aime, maman ». Et il y a également le papa de cette famille-là qui dit ça a pris 4 ans avant que Célia, leur petite de 4 ans qui vit avec un TSA, dise bonjour. Bon, chaque soir, quand j'arrivais du boulot, je disais bonjour. J'avais pas de réponse, pas de réaction, comme si je n'existais pas. Puis à un moment donné, il y en a eu un, bonjour. Et là, ça, c'était un gain formidable. Vos fils aussi en font, j'imagine, Véronique, des gains. Est-ce qu'on s'accroche à ça beaucoup?
Certainement. C'est comme il y a beaucoup de choses qui sont des défis, ça peut être difficile parfois. Ben, des petits moments comme un petit je t'aime ou juste une réponse parfois ou un rire, un éclat de rire, c'est vraiment ça nous accroche, ça nous remonte beaucoup.
Et il y en a de l'évolution, vous le mentionnez également. À un moment donné, vous dites « j'étais assise par terre pour jouer, mais c'est comme si j'existais pas, je parlais, personne ne me répondait. » Et à un moment donné, « oh, l'interaction change, le contexte change, le contact et le contexte change également. Et ça, c'est par toutes les ressources qui entourent vos enfants?
Absolument, oui, c'est par les ressources et même nous-mêmes, les parents, en s'impliquant beaucoup, c'est ça, il faut être informé, vraiment s'impliquer et prendre le temps. Et ça prend beaucoup de patience et de positivisme. Mm-hmm. Mais un enfant à 2 ans ne sera pas le même, selon moi, à 5, 6, 7 ans. Il y a toujours de l'évolution constante. Il ne faut pas se décourager.
Est-ce qu'il y a un deuil de l'enfant parfait qu'on a à faire?
Pas pour moi. Moi, je n'ai pas vécu ça parce qu'on ne sait jamais que notre enfant ait un TSA ou pas. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver avec plus tard, comment ça va se passer pour lui plus tard. Donc, pas dans mon cas, mais je sais que d'autres parents le vivent comme ça, oui. Mais c'était pas comme ça pour moi.
Il y a également un passage dans la vidéo qui conseille aux proches. peut-être qu'on pourrait en parler, Cynthia, aux proches de famille qui ont des enfants autistes. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller?
Bien, on pourrait leur conseiller d'essayer de comprendre qu'est-ce que les parents vivent, d'essayer de les supporter, oui, mais nous aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est parfois aussi de les impliquer. Donc, il y a des grands-parents qui viennent aux thérapies accompagner à leurs enfants et leurs petits-enfants. On inclut beaucoup la fratrie. Je pense que ça apparaît dans la vidéo, l'importance de la fratrie. Donc, nous, on a vraiment une approche où on intègre la famille, si elle le veut bien, la famille élargie, parce que c'est important. C'est pas simplement de leur donner de l'information, c'est vraiment de reconnecter la famille ensemble. Et ça aide parce que les parents se sentent très seuls parfois dans cette expérience. Je pense qu'on
le dit même. Ben oui, si j'étais à l'hôpital pour un long séjour, j'aurais plus d'aide que d'avoir un enfant autiste à la maison.
Exactement, parce que, comme Véronique le disait bien, l'enfant autiste, de prime abord, n'a pas de caractéristiques physiques apparentes. Mm-hmm. Donc, pour certains, c'est pas tout à fait clair. Alors, on a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de mythes encore qui circulent et parfois, c'est très subtil. Les parents se sentent jugés comme si peut-être le problème était autre chose, donc parce que c'est moins apparent. Donc, c'est un défi là, de pouvoir briser ces barrières.
Mais je pense que la vidéo peut servir à ça, beaucoup de briser certaines frontières, d'amener beaucoup d'ouverture, de compréhension. Et ce que j'ai apprécié, moi, et je veux vous remercier toutes les deux pour ça, c'est qu'il n'y a pas de misérabiliste, si je peux m'exprimer ainsi. On parle de l'autisme de façon extrêmement professionnelle, bien sûr, avec beaucoup d'émotions, de sensibilité, mais je veux dire, on ne tombe pas dans une émotion pour faire couler la larme ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est notre réalité, notre quotidien, les voici et ben, on fonctionne très bien de cette façon-là, malgré nos défis. Ça, j'ai beaucoup apprécié. La vidéo s'adresse à qui, Cynthia?
Un peu comme Véronique l'a dit, c'est sûr, dans un premier temps, le but de la vidéo était de soutenir les parents qui viennent de recevoir un diagnostic ou qui l'ont reçu depuis un certain temps, puis peut-être qu'ils n'ont pas eu de soutien. Alors, de pouvoir soutenir les parents dans un premier temps. Dans un deuxième temps, étant donné que nous, on est un hôpital pédopsychiatrique spécialisé, c'est aussi notre mandat d'aider, de soutenir les intervenants que nous, on appelle de la première et de la deuxième ligne, c'est-à-dire les intervenants des C3S, les CLSC, les intervenants des centres de réadaptation et même les organismes communautaires qui, eux, travaillent au quotidien avec les familles. Donc, c'est notre mandat aussi de leur offrir des outils pour qu'ils puissent aider ces familles-là. Alors, ça répondait aussi au mandat qu'on avait sur ce plan-là. Et finalement aussi, comme Véronique l'a dit, de démystifier pour la population en général. C'est important pour les parents que tout le monde sache que finalement, un enfant autiste, une famille avec un enfant autiste vit les mêmes des défis semblables, mais aussi des défis particuliers et de pouvoir briser les tabous.
Oui. On peut se la procurer où?
Alors, elle est disponible sur le site Internet de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Vous cliquez sur l'onglet CECOM, qui est l'organisme de l'hôpital qui a des outils de développement comme celui-là. Alors, c'est là que vous pouvez la commander.
Oui, aussi hrdp.qc.ca. On va vous laisser filer toutes les deux. Véronique, vous allez chercher Nicolas et Maxime à l'école, c'est ça?
Oui, eh bien, en fait, ils vont arriver en autobus scolaire bientôt.
Donc, vous allez être à la maison pour les accueillir. Merci beaucoup de votre temps, de votre générosité, Véronique Dupont. Ça a été très, très apprécié.
Merci, Marie.
Cynthia Brosseau, vous êtes... je vais le dire, travailleuse sociale, psychothérapeute à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Vous êtes idéatrice, hein, il faut le dire. C'est votre bébé, cette vidéo sur le chemin de l'autisme. Merci beaucoup. Et je m'apprête à recevoir Jennifer Maline dans quelques instants.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Jennifer Maline.
Bonjour.
Oui, le micro est ouvert. la zénitude, là, donc cette capacité à être serein, ça peut s'apprendre à tous âges, là, mais si on peut l'apprendre petit, ben c'est pas plus mal. Vous, vous enseignez le yoga à des enfants, notamment dans les écoles. Vous êtes créatrice, oui, d'un programme qui s'appelle Zen avec Jen. À partir de quel âge on peut... apprendre les vertus du yoga à des petits-enfants?
Ça dépend. Moi, j'ai travaillé avec des petits bébés.
Ah oui?
Oui, des petits bébés, ça sera peut-être... ça va être différent. Ça va être des besoins particuliers. Alors, les petits bébés, c'est souvent des enfants qui ont l'autisme, le Down syndrome, le... syndrome d'alcoolisation fœtale, des besoins particuliers, c'est les bébés. C'est certain que si on va travailler la respiration, déjà, ils apprennent à relaxer. Mais pour que les enfants soient autonomes, maternelle, c'est vraiment l'âge idéal.
Donc, on parle de 5 ans quand même, là, c'est en bas âge. Est-ce que vous adaptez la discipline pour les petits ou c'est vraiment comme avec les adultes?
Oh non, pas du tout. C'est vraiment différent parce qu'on va amener quand même un côté un peu plus imaginaire. Tu sais, lever les bras, c'est beau pour les adultes, mais là, c'est vraiment comme, tu sais, on inspire, on lève les ailes, on va tirer les bras, on essaie d'attraper les étoiles. Déjà, on va chercher l'imaginaire. Et puis là, les enfants vont comme découvrir des parties du corps. Puis c'est ça, c'est vraiment les amener dans un autre côté un peu ludique, mais qui va les calmer en même temps.
Oui. Vous intégrez le conte également à vos cours de yoga. Comment ça se passe? Comment se côtoient le conte et le yoga dans vos cours?
La première fois que j'ai enseigné le yoga, il y a environ 15 ans, mon premier cours, j'essayais d'enseigner des postures, mais un enfant, en 2 secondes, tu perds leur attention.
Oui.
Et ça a été naturel. Là, ça a fait comme OK, plan B. Alors là, pour amener la transition des postures, parce que les enfants, ceux qui travaillent dans les garderies puis dans les écoles, on sait que c'est la transition où c'est un peu plus problématique pour les enfants. Alors là, j'ai comme fait OK, qu'est-ce qui pourrait lier une posture à l'autre? Alors j'ai commencé, ça a été vraiment instinctif, à raconter une histoire. Et quand j'ai commencé à raconter l'histoire, là, je voyais que leur attention restait après la posture parce qu'ils veulent avoir le reste de l'histoire. Fait que quand ils font la posture, parce que le yoga, ça l'amène beaucoup dans le corps. Alors on devient aussi... avec le conte, c'est qu'on amène le conte en vie par le corps.
Oui.
Alors là, les enfants vont faire la posture. Puis, tu sais, moi, j'ai environ 25 élèves par cours.
Ah, c'est costaud comme classe,
oui. Oui, mais j'aime ça. Je suis capable d'en prendre. Mais c'est ça. Alors, la minute que les enfants, ça va parler, mais la minute que tu dis est-ce qu'on on continue l'histoire ou ça devient silence total? Alors pour moi, c'était vraiment le lien et le conte en même temps, c'est une forme de pas de philosophie de vie, mais oui.
Ouais,
parce
oui.
que mais les contes, ils ont souvent une morale ou ils ont comme juste un symbole, puis après, on peut parler de qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Parce que le yoga, on pense que ça s'arrête aux postures, au corps, puis à la respiration, mais c'est...
Ça va au-delà de ça. D'ailleurs, vous enseignez également à des adolescents. Ça peut favoriser peut-être le contact également avec ces jeunes-là dans un âge, peut-être une période un petit peu plus difficile.
Oui, puis ce qui est drôle, c'est que j'ai souvent les enfants qui commencent avec moi en maternelle. Et là, ils continuent. Puis c'est pas dans le curriculum de l'école, c'est vraiment le choix des enfants. Puis à chaque année, je suis comme toujours surprise de voir autant d'enfants.
Leur retour aussi, hein?
Oui, oui. Leur retour. Puis là, quand ils sont rendus en sixième année, mm-hmm. ils vont au secondaire. Mais j'ai plein d'élèves qui sont rendus au secondaire qui reviennent dans mm-hmm. l'école primaire. Mm-hmm. Ils sont même prêts à revenir avec les enfants parce qu'ils me disent tout. Ils me disent tout qu'ils s'ennuient du conte. Parce que le conte, ça fait du bien.
Oui.
Autant que le yoga fait du bien, le conte, ça va comme c'est une nourriture au niveau un peu de l'esprit.
Le yoga et le conte, donc, amènent, j'imagine, peut-être à favoriser la concentration, à se calmer également. Qu'est-ce que ça peut amener d'autre, le yoga, pour les enfants ou les ados?
Mais le yoga, surtout les enfants, ils apprennent hein, leur corps, la proprioception, c'est le concept de notre corps dans l'espace. Quand je lève mon bras, qu'est-ce qui se passe? Alors, le yoga, c'est clair que ça l'amène une connaissance de son corps. Mm-hmm. Déjà, vivre dans son corps en tant qu'adulte, c'est dur.
Ouais.
Un enfant qui commence à comprendre, OK, droite, gauche, oh, quand je fais ça, ça fait ça. Déjà, cette connaissance-là, c'est un super beau cadeau. Quand on commence à connaître son corps, eh bien, comme j'explique, on connaît la météo de notre corps.
Mm-hmm.
Quand ça va bien, il fait soleil, tu peux l'exprimer. Maman, ça va bien aujourd'hui, mais quand que... il y a un petit orage à l'intérieur, ben l'enfant peut l'exprimer parce qu'il connaît son corps.
Mm-hmm.
Et à travers le corps, on va aller travailler sur l'esprit. Comment le calmer? Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'enfant, en comprenant comment fonctionne le corps, ben il peut avoir accès plus facilement à ce qui se passe au niveau de l'esprit, oui. de même de la tête.
Et se rendre compte à quel point tout ça est connecté.
Oui.
Ouais. Et de pouvoir, en terminant, Jennifer Mullin, l'amener à la maison également, sa routine et cette discipline de vie, cette façon de vivre, l'amener à la maison et faire du yoga avec papa-maman, ça peut être chouette.
Ça se fait souvent. Souvent, les parents de mes élèves, ils me disent toujours que là, l'enfant enseigne beaucoup, beaucoup à la maison. Puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut m'offrir, c'est de savoir que mes élèves continuent à... C'est la continuité à la maison.
Merci beaucoup. Alors, www.zenwithjen.com pour en savoir davantage. Ça a été un plaisir, peut-être un peu trop bref, de vous rencontrer, Jennifer Mullin. Merci beaucoup. Merci, Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde. Toujours un plaisir de collaborer avec toi. On se retrouve demain. Je vous embrasse. Bye-bye.